bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale. Merci d'être au rendez-vous avec Leïla Kadoumoudali, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Albert Algon, Jérémy Crédil, tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité, grand monsieur Hubert Reeves. On est ravis de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Hubert Reeves, vous allez bien? C'est la première question que j'ai envie de vous poser.
Ah, ça j'attends avec impatience.
Comment vous sentez-vous? De savoir si vous allez bien, vous savez pas si vous allez bien?
Je vais bien, oui.
Ah. Voilà, c'est ça, la première nouvelle. Je chemine avec, c'est clairement une collection qui démarre avec vous, c'est au seuil de, finalement, vous nous prenez par la main et l'on vit avec vous, on se balade dans tout ce que vous avez pu vivre en famille, et alors dans une intimité particulière, parce que vous expliquez comment vous avez été élevé, comment vous avez été éduqué, comment la religion aussi avait sa place au Canada à l'époque, comment les voyages vous ont attiré aussi, comment professionnellement vous vous êtes fait piéger aussi par un tout petit peu de narcissisme, vous aviez le souci d'être connu et reconnu aussi dans votre métier.
Eh oui, c'est normal pour les jeunes scientifiques justement se méfier de cette envie d'être Einstein.
Ouais.
Tous les jeunes scientifiques rêvent d'être Einstein. Et il faut bien savoir que ça arrive à peu de monde et que ce qu'on peut espérer au mieux, c'est que les résultats de nos travaux, quelques chiffres, passe dans ce qu'on peut appeler le folklore.
Attendez, on va juste ouvrir votre micro, ça sera beaucoup plus simple parce que là, j'ai l'impression qu'on vous entend plus par les autres micros que par le vôtre. Faudrait juste ouvrir le micro du Berry et baisser ceux où il n'y a personne. Pardon, oui, on va mieux vous entendre.
Les jeunes scientifiques.
Ah, vous êtes là.
Les scientifiques, les jeunes qui viennent prendre une carrière scientifique, c'est à la fois par la curiosité, par l'envie d'améliorer la connaissance, mais aussi de se montrer comme leur génie éclate au grand jour.
Et d'ailleurs, vous parlez de ça en disant à quel point votre vie personnelle a pâti de votre engagement professionnel et que c'était un regret.
Oui, effectivement. On est tellement pris dans cette envie qu'on néglige d'autres aspects, des aspects familiaux, des aspects comme ça. Et à rebours, on se dit oui, ben j'aurais pu, mais bon.
Puis il y a toute cette éducation qui vous a poussé à travailler, toujours travailler, encore
c'est
travailler.
C'est ça, mes parents étaient des pushers, comme on dit maintenant.
Tout ce qui m'a manqué.
Tout ce qui t'a manqué, c'est ça. Alors justement, on va revenir évidemment sur ce bout de chemin avec vous, Hubert Reeves. Et la première question concerne vos parents. Qu'est-ce que son papa a dit quand Hubert Reeves lui a avoué qu'il voulait étudier l'astrophysique?
Bon courage.
Alors, il faut que
tu veux. Pardon?
Si tu veux.
Non.
Passe ton bac d'abord.
C'est pas concret. C'est pas. Il faut un truc plus concret.
Il faut un diplôme avant.
Non.
C'était scolaire.
C'était un conseil de la vie.
Ouais,
c'est-à-dire que
prends le taureau par les cornes.
Gagne de l'argent d'abord.
Prends le taureau par les cornes.
Fais-le, mais fais-le bien.
Persévère.
Non.
Oublie.
Non. Non, papa, je voudrais être astrophysicien.
Si c'est
je
ton vais rêve, t'aider. Si c'est ton rêve, vas-y.
C'est pas ça.
Je vais t'aider, il va l'aider.
Non.
C'est un rapport avec l'astrologie.
C'est un conseil, non, c'est de réagir en disant,
travail.
Mais tu sais.
Ah oui.
C'est pas pour tout le monde, il n'y a pas des places pour tout le monde, ça peut être dur, ça peut être difficile,
ça paye pas.
Tu peux échouer.
Exactement, Daniel Morin. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie.
Ah. Oui. Tu vas devenir un modeste professeur dans un lycée de campagne, c'est ça que tu veux. Regarde ce que font tes oncles, ils sont avocats, ils gagnent de l'argent, tu vas perdre ton temps. Et moi, je disais, bien, oui, mais est-ce que j'ai envie de défendre les murs mitoyens et les...
Oui, pour vous, faire du droit, c'était faire notaire, apparemment.
Oui, c'était un peu restreint, je dois dire, mais c'était un peu l'image que j'avais.
Surtout si on parle du système solaire, globalement, et encore.
Il m'apparaissait qu'il y avait des choses plus intéressantes.
Albert Algou.
Mais votre père, vous l'admiriez et le redoutiez en même temps. Vous dites de lui que c'était un mélange de Churchill et d'Hitler pour vous.
Voilà, c'est ça.
C'était sympa comme comparaison.
C'était quelqu'un qui me terrorisait, d'une part, mais c'est quelqu'un que j'admirais.
On peut le dire, et qui vous maltraitait aussi.
Et qui était dur avec moi, qui me battait, qui entrait en compétition avec un enfant, ce qui est ridicule.
Question sur Hubert Reeves, de quelle pièce de son collège avait-il emprunté, pour pas dire volé, les clés?
Voilà, le CDI, la bibliothèque?
Non.
Le laboratoire. La cave.
Non.
La salle de sport.
La cantine.
Non.
Le placard.
Non.
Qu'est-ce qu'on
peut faire? Le bureau du directeur.
Le
bureau du directeur.
Non.
Il a un laboratoire.
La salle de classe où il
alors
était.
Alors c'était une salle particulière qui était dédiée à
la chimie.
Non.
Le physique. Développement de
exactement.
La
et non. Ah t'as dit quoi?
J'ai dit ça. Musique.
Le gymnase.
T'as dit musique, ouais, c'est
ah,
ça.
Oui, oui, c'était la salle de musique.
Physique à la
fois. La salle de musique dont j'avais réussi à piquer les clés et j'y allais en cachette.
Alors il y avait quoi de magique dans cette salle de musique? Est-ce qu'il y avait vraiment de la musique? Est-ce qu'il y avait moyen d'écouter des disques ou c'était absolument simplement un isolement?
Non non, c'était il y avait une discothèque formidable. Et j'adorais retrouver les disques, la musique classique surtout, mais c'était.
Vous auriez aimé jouer d'un instrument ?
J'ai toujours regretté d'avoir abandonné le son de piano quand j'étais enfant. Pour moi, ça m'ennuyait. Et maintenant, j'aimerais savoir. Mon rêve, ça aurait été d'être un violoncelliste et jouer des quatuors de Schubert. Mais à mon âge, il est
bon,
trop,
c'est pas
tard,
trop tard,
évidemment. C'est trop tard.
Il n'y a qu'à demander.
Si j'ai une autre vie, on ne sait jamais. Alors je vais m'inscrire au conservatoire tout de suite, en classe de violoncelle.
Vous dites, si j'ai une autre vie, on ne sait jamais. Vous croyez à une éventuelle réincarnation?
Je ne crois à rien parce que j'ai aucune information. Moi, je suis scientifique. Personne n'est venu me dire qu'il y avait une autre vie. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. On ne peut pas, quand on ne sait pas, dire qu'on sait.
Mais il y a beaucoup de grands
scientifiques. Vous savez,
Nagui
le dit tous les jours.
Ouais.
Hein.
Oui, mais pardon, c'est déjà une preuve, c'est une preuve d'intelligence de dire « je ne sais pas ».
Peut-être, mais c'est la situation. Moi, je pense que quand on ne sait pas quelque chose, la première chose, c'est de le reconnaître. On peut chercher, mais je ne vois pas comment chercher. De toute façon, il ne m'arrive jamais aucun message de mes ancêtres.
Et pourtant, il y a beaucoup de grands scientifiques qui sont de grands croyants et qui croient à une vie après.
Oui, Newton, par exemple, était un homme très, très religieux.
Oui.
Einstein aussi, mais pas dans le sens d'être pratiquant d'une religion donnée.
Et comment vous expliquez ça, le fait d'être un grand scientifique, de ne croire que à partir des informations qu'on a, et par ailleurs d'avoir cette croyance dans l'au-delà?
Je crois que c'est deux domaines séparés de l'activité humaine. Mm-hmm. Il y a l'idée de qu'est-ce que la science nous apprend, elle nous apprend des faits, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les faits, c'est des interprétations. Et le fait qu'il y a plusieurs religions différentes, vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être d'autres religions, ça vient surtout du milieu dans lequel vous avez vécu. Mm-hmm. C'est-à-dire, la rationalité n'a pas grand-chose à voir avec cela. Si vous êtes l'enfant de quelqu'un de très croyant, vous serez peut-être très croyant, ou alors tout à fait l'opposé, selon votre réaction personnelle, mais c'est pas comme la science. La science, il y a une robustesse. Si vous posez une question, il y a une possibilité que ça réponde oui ou non. Mais comment voulez-vous que quelqu'un vous réponde à la question « est-ce qu'il y a une autre vie ?»
Mais alors, il y a quand même une part de croyance et d'imaginaire quand on est scientifique. C'est-à-dire que dans un premier temps, même si on n'a pas tout de suite les éléments pragmatiques pour travailler, on a une réflexion ou un rêve qui nous mène dans une direction.
C'est surtout l'expérience de laboratoire. Mmh. La science est robuste dans le sens que vous pouvez poser une question et vous avez un moyen de répondre. Si vous avez l'expérience qui vous dit non, là vous vous trompez, là vous avez raison. Donc vous êtes à l'aise avec la science.
Oui, mais vous donnez une direction à vos recherches au début. Et c'est...
Non? Ben, oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous puissiez les confirmer ou non.
D'accord.
Si une expérience donnée les confirme, bon, vous dites oui, ça marche. Si je laisse tomber quelque chose, je sais que ça tombe, donc je peux croire à l'existence de la gravité, vous voyez.
Mais si on cherche à savoir s'il y a un autre système solaire qui existe, si qu'il y a une vie ou une planète sur laquelle qui ressemblerait à la Terre, là on commence par rêver, c'est pas pragmatique, c'est simplement de se dire j'imagine qu'il peut y avoir quelque part un autre système des exoplanètes ou que sais-je qui existe. Donc là, on est du domaine du fantasme.
Là, vous êtes dans le domaine de la recherche. Mais
non, je suis dans le domaine du rêve et ensuite on fait la recherche.
Tout à fait. Mais par exemple, si vous demandez s'il y a d'autres planètes, eh bien aujourd'hui, on sait que oui, parce qu'on les observe. Vous voyez, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a d'autres systèmes solaires. On en connaît plusieurs milliers déjà. Et c'est clair, on les observe.
Des planètes plates?
Ça m'étonnerait.
Ça vous énerve, ça, les
platistes?
Ouais.
Bof, c'est des fous. Rien, c'est comme ça. C'est, les humains sont comme ça. Moi, ça me dérange pas.
Qu'est-ce que, alors, on le comprend bien et on s'en rend compte avec avec le livre. Je chemine avec Hubert Reeves. Ce que vous aimez, c'est apprendre et c'est transmettre aussi. Oui. Et vous dites même que la meilleure manière de savoir que l'on sait réellement quelque chose, c'est quand expliquer. On l'apprend et quand ouais. on l'explique à voilà. quelqu'un d'autre. Voilà. Et aujourd'hui, Hubert Reeves aime toujours lui apprendre. Mais il aime apprendre quoi ?
La cuisine.
Non.
Les sciences.
Non.
C'est pas dans les. Non.
Des sports.
De nouvelles choses.
Quand je dis apprendre, c'est.
Des poèmes.
On est exactement. Ah. Exactement. On n'est pas loin peut-être du par cœur. Mm. Vous aimez apprendre des poèmes.
Oui, c'est vrai. Bon, d'abord parce que je suis d'un certain âge et qu'à cet âge, on a des problèmes de mémoire.
Mm-hmm. Et donc vous entraînez votre mémoire comme un muscle.
Oui, d'une certaine façon. D'abord parce que j'aime beaucoup me réciter des poèmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé.
Pas d'autres, à vous-même.
Ah oui, par exemple, de me promener. Oui, si quelqu'un me demande, je le ferai volontiers, mais c'est normalement, je me les récite à moi-même. Et je suis toujours heureux de connaître un poème par cœur. Et donc, j'apprends des poèmes, mais d'abord comme une gymnastique, justement, c'est ce qu'on dit. Si vous sentez que vous perdez la mémoire, pratiquez, faites des choses, apprenez des choses. Parce que la mémoire, c'est aussi un muscle, c'est aussi quelque chose qui s'apprend.
Ce sont des connexions qu'il faut entretenir.
C'est ça.
Et quel poète en particulier ?
Oh, Rimbaud, Baudelaire, puis des poètes anglais, Walt Whitman, ouais. Plusieurs comme ça.
Une fois que vous apprenez par cœur, ça reste ou ça laisse la place à un nouveau poème au fur et à mesure ?
Non, ça reste.
Ça reste.
Et plus je les ai appris quand j'étais au collège, on apprenait beaucoup de Fables de La Fontaine, des choses comme ça. Et ça, ça reste totalement.
Et si
ça.
Vous aviez là maintenant un poème à nous conter ?
Je pourrais vous... Voici venir les temps... Où vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Voilà.
Cyril Hanouna.
Merci, Hubert. Quel est le programme télé préféré d'Hubert?
Arte.
Ne dites rien, Hubert. Pardon,
non, les infos, la météo.
Je parle pas d'une chaîne.
Hein, la météo, les infos, style. Météo,
la pub,
info.
Les documentaires.
C'est pas un documentaire, c'est pas la publicité.
Bah, aucun, il regarde pas la télé.
Il aime bien regarder certaines choses à la télévision.
Des séries. Pubs.
Pas des publicités.
Je l'ai dit. Des séries.
Non.
Les débats.
Non.
Les émissions religieuses.
Non.
Les infos. Animalières.
Non.
Les émissions musicales.
Oui, mais alors quoi?
N'oubliez pas les paroles.
Exactement. Les concerts. Ah, oui.
Exactement. Les concerts filmés.
Je trouve que ça, c'est une addition générale et géniale à la possibilité de s'intéresser aux arts. Parce que quand vous regardez des émissions de télévision, maintenant, qui sont consacrées à la musique, vous pouvez voir en gros plan les émotions dans la figure des gens qui chantent les opéras et tout cela. Bien sûr, vous pouvez aller au concert, mais au concert, si vous avez des jumelles, vous pouvez regarder. Mais là, vous les avez en gros plan. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça une addition importante. Chez moi, j'ai la musique mezzo, classica, tout ça.
Toutes les chaînes.
Toute la journée. J'ai besoin de ça pour travailler. Quand je travaille, si je me dis, il manque quelque chose, je dis, ah oui, et je vais mettre Classica ou un autre, et là, je me sens bien.
Et parfois, on peut voir les là.
Et ce sont des musiques qui vous procurent des émotions?
Oui, tout à fait. Par exemple, la musique pour moi que je trouve la plus parfaite sur ce plan, c'est la symphonie pastorale de Beethoven. Quand vous commencez, ça vous fait sentir vraiment bien. Beethoven a appelé ça émotion quand on arrive à la campagne.
Alors j'avais la sonate au clair de lune pour vous.
Ah ben la sonate au clair de lune, oui. Ça. Ma mère jouait ça quand j'étais enfant et ça m'a toujours bercé.
Est-ce que c'est l'émotion qui va décider de la musique que vous allez écouter ou est-ce que c'est la musique qui va provoquer des émotions chez vous?
Alors d'abord, au départ, je ne sais pas ce que je vais entendre.
Non mais vous savez dans quel état vous êtes.
Oui, et il y a 3 ou 4 choix, je trouve celle qui me va le mieux.
Quand vous êtes énervé, vous écoutez Wagner, quand vous êtes mélancolique, vous écoutez
et
Beethoven.
J'envahis la Pologne.
Exactement.
Woody Allen.
Célèbre phrase de Woody Allen. Hubert Reeves, donc vous avez inauguré cette nouvelle collection de livres d'entretien au Seuil, que j'ai trouvé totalement passionnante parce que c'est au-delà de mieux vous connaître, c'est une leçon de vie que vous nous donnez, ou leçon même d'éducation que vous transmettez à des parents qui pourraient en tirer des enseignements pour transmettre à leurs propres enfants. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire, notamment, et c'est la première chose moi qui m'a frappé, la connaissance, l'appétit d'apprendre, c'est comme une gymnastique quotidienne chez vous.
Oui, c'est ça. C'est un besoin. J'ai beaucoup de reconnaissance pour des professeurs qui m'apprennent quelque chose de nouveau. Mmh. Là, j'ai plein de reconnaissance. Et quand j'étais en université, j'étais aux États-Unis, au Canada, j'aimais ces gens-là et j'étais content. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas.
Et d'ailleurs, vous mettez le doigt sur l'un des problèmes de notre système d'éducation, en tout cas en université, c'est qu'il y a une distance créée des castes entre les enseignants en université et les élèves en France, ce qui n'est pas le cas dans les écoles ou les universités anglo-saxonnes, où il y a beaucoup plus de rapprochement ou de partage et presque de respect entre les profs et les élèves.
Oui, on mangeait avec les professeurs, ce qui, à ma connaissance, est assez rare ici. Oui. Et ça, c'était vraiment intéressant, après le cours, de pouvoir en discuter, de dire qu'est-ce que vous voulez dire par ceci, par cela. Il y a quelque chose, dans ces universités américaines, vous êtes invité à participer à la recherche et on vous fait sentir que vous pouvez améliorer votre situation et faire des choses nouvelles.
Et qu'un recteur d'université puisse croiser un élève alors que le recteur est extrêmement admirable et admiré par tous ses pairs et dire à l'un de ses élèves « Je suis heureux de vous croiser en ces murs ». Ça vous avez...
Pour moi, ça a été génial. C'était génial. Hans Bethe, un Allemand qui était un de ceux qui ont été chassés par les nazis, c'est celui qui a montré que le soleil est une source d'énergie nucléaire, ce qu'on ignorait jusque-là, et que je le croise dans le corridor et il me dit « I am happy to see that you are with us
». Mais c'est ça qui est super beau dans cet entretien, c'est que déjà moi j'ai beaucoup d'affection pour vous à chaque fois que je vous vois, clairement, et que je vous entends, et parce que vous avez cette sagesse, vous avez aussi cet âge que je respecte énormément, voilà, la figure de l'ancien, je crois que c'est important, et dans ce bouquin c'est vrai que l'essentiel est là, cette envie d'apprendre, cette envie de bien apprendre pour transmettre et à son tour pouvoir expliquer aux autres. Les conseils que vous donnez même sur l'avenir, sur les enfants, sur l'éducation, de passer par les écoles, ensuite d'aller pouvoir étudier à l'étranger pour se frotter à un autre système. Il y a quelque chose toujours de très bienveillant dans votre démarche et toujours on a envie de se dire en finissant le livre, si je pouvais choper à vie le virus d'Hubert Reeves, à savoir d'avoir toujours envie d'apprendre, d'apprendre.
Oui, j'ai beaucoup, encore une fois, de reconnaissance pour ceux qui m'ont appris des choses.
Et ça, c'est la classe éternelle d'Hubert Reeves qui passe son temps à rendre hommage à ceux qui lui ont appris.
Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est apprendre de vous, mais vous avez le sentiment toujours d'avoir quelque chose à apprendre. Une journée sans avoir appris quelque chose, pour vous, est une journée perdue.
Une journée, oui, il manque quelque chose. Oui, tout à fait.
Alors, et on apprend comment ? Est-ce qu'on apprend par sa propre curiosité qui en est le moteur, ou on apprend par, justement, l'écoute que l'on peut avoir des autres ? Parce qu'il y a aussi ceux qui savent.
Oui,
transmettre, ceux qui savent transmettre la connaissance, et ceux qui font des cours magistraux et on a le sentiment que même eux n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de nous dire.
C'est ça. Et là, un autre aspect très positif de notre période, c'est le fait qu'avec Internet, il y a sur Internet des cours qui sont enregistrés sur vidéo, et qu'un Africain qui est loin de toute possibilité d'avoir des conférences intéressantes peut recevoir, pourvu qu'il a un ordinateur, les meilleurs cours qui sont donnés dans les plus grandes universités. Ça, je trouve ça génial.
L'accès au savoir.
Là, il y a une ouverture à la connaissance pour toute la planète. Ce n'est pas seulement...
Pourquoi vous prenez l'exemple de l'Africain en particulier?
Ça peut être n'importe quel pays pauvre.
Oui.
Je dis dans un pays pauvre.
Loin de toute université, loin de tout accès à la culture.
Ça
peut être aussi un petit Français en province qui n'a pas les moyens, parce que ça coûte extrêmement cher aussi les études. Ça, c'est un autre problème.
Un enfant qui n'aura aucune chance d'aller à Stanford ou à Cornell peut recevoir les meilleurs professeurs, les conférences des meilleurs professeurs.
Mais est-ce qu'on a tous la capacité d'apprendre?
Moi, je pense. Je pense, bon, c'est une question de famille aussi. Il y a des familles où c'est très valorisé, et c'était le cas dans ma famille, ça j'en remercie mes parents. C'était très important, la connaissance. Il y a évidemment des familles où c'est pas le cas, et si l'enfant n'est pas dans un lieu où il y a cette valorisation par les parents, ça ne marchera pas. Donc,
vous avez plusieurs enfants, et si l'un d'entre eux n'avait pas du tout et n'aimait pas du tout apprendre, vous auriez fait comment ?
J'aurais été bien déçu.
Ouais, mais...
J'aurais été bien déçu, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais il se trouve que...
Mais comment vous avez fait alors pour donner à vos enfants l'envie d'apprendre ? Et attention, beaucoup de parents vous écoutez
ouais,
en disant
ça, que...
j'ai du mal à expliquer à mon enfant qu'il doit aller à l'école pour apprendre.
Beaucoup de gens vous écoutent, dites pas n'importe quoi.
Pas d'écran avant 6 ans. Pas d'écran avant 6 ans.
Premier élément, les amener à la campagne, dans la nature. Montrer qu'on est intéressé à la nature, montrer qu'on est intéressé à savoir, à poser des questions sur les questions sur le sujet du genre d'où je viens. Qu'est-ce que je fais ici? Et ça, les enfants questionnent beaucoup là-dessus, et très tôt, dans les 6-8 ans, toujours les enfants posent ces questions.
Est-ce que je peux me permettre
les nourrir.
Est-ce que je peux me permettre d'élargir à la curiosité de la nature que vous suggérez, à la curiosité de savoir comment c'est fait ou comment on fabrique l'artisanat, le travail manuel et l'art de savoir travailler le bois, travailler la pierre, travailler de ses mains.
Tout à fait. C'est-à-dire être conscient de où on vit et comment ça marche. L'idée de la science, c'est comment ça marche. Comment ça marche le soleil, les étoiles, la végétation, toutes ces questions que des enfants qui sont encouragés à le faire par leurs parents vont spontanément faire.
Sauf que tous les parents n'ont pas la réponse pour expliquer comment ça marche.
Mais là, c'est l'influence, l'influence d'un abbé. C'est d'avoir la question.
C'est ça, c'est un abbé qui vous influence
énormément. Pierre-Louis-Marie.
Oui, le père Louis-Marie, un trappiste, qui était un grand ami de la famille, qui enseignait à l'université la botanique et qui nous amenait dans la forêt pour nous montrer les plantes, les fleurs et tout ça.
Et qui était l'amour.
Mais vous savez tout.
Interdit.
Non, j'ai lu votre livre.
Interdit.
Oui,
ça c'est.
Et qui était l'amour interdit de votre maman.
Oui, c'est ça. Enfin, interdit, on ne sait pas.
vivement le tome 2.
On se pose des questions, mais c'est vrai que c'était très présent dans la famille. C'était un homme qui était très aimé, justement, parce qu'il avait des microscopes et il nous montrait dans son microscope. Un jour, il m'invite à regarder et je vois toutes des petites bestioles qui bougeaient dans tous les sens. Et je lui dis, mais c'est où ça? Je ne pouvais pas imaginer que c'était
l'infiniment petit.
Et il me dit, c'est là. Et là, ça, pour moi, ça a été fantastique. Imaginez qu'en regardant dans cet appareil, dans cette petite oculaire, tout d'un coup, je voyais un monde complètement différent. Ça, je me suis dit, la science, c'est pour moi.
Ce qui est formidable, c'est que vous êtes intéressé votre intérêt, ou la naissance, en tout cas, de votre curiosité, est partie de l'infiniment petit pour ensuite intéresser à l'infiniment grand.
Exactement. Les deux domaines m'intéressent également, puisque ça fait partie. C'est quoi cet univers dans lequel on est entré le jour de notre naissance? C'est ça la question.
Et on n'est rien, finalement, au milieu de tout ça.
Si, nous ne sommes pas
rien. Ah bon, pour toi, hein.
Non, nous ne sommes pas rien. Non, d'abord, nous sommes intéressés à connaître, nous en faisons partie. Notre vie est une histoire, un chapitre de l'univers. C'est ça qui est intéressant maintenant, c'est de constater comment nous sommes reliés aux étoiles, aux galaxies.
Alors, je me suis mal exprimé, on n'est peut-être pas rien, oui, on n'est pas grand-chose. On est perdu déjà à l'échelle de...
À l'échelle de la dimension.
De la dimension, déjà, de la dimension géographique et de la dimension historique aussi.
Oui, c'est ça. Mais ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que l'humanité, même si on dit que c'est rien, elle est capable de détruire la vie sur la Terre. Ça, c'est le drame que nous avons.
Ça, c'est les deux autres choses aussi que l'on lit dans votre livre. C'est que c'est l'homme qui se suicide, qui s'abîme tout seul.
Qui se menace, en tout cas, qui bâtit les instruments qu'il faut pour s'éliminer.
On va continuer de parler parce que vous l'avez deviné, c'est passionnant. Et ce petit livre, mais c'est juste incroyable que dans une centaine de pages, il y ait autant de valeurs et d'intelligence réunies. C'est au seuil, je chemine avec Hubert Reeves. Et il y a même des scoops donnés par François, et c'est maintenant.
Salut les amis! Salut Nagui et coucou Hubert! Tout à l'heure, juste avant l'émission, alors que je confiais à Daniel Morin
Je chemine avec Uber. Il m'a répliqué. Moi, je préfère les taxis G7. Et comme je lui précisais que je faisais référence au livre d'entretien d'Hubert Reeve, astrophysicien renommé, il m'a rétorqué. Tu sais, en ce moment, même avec un coach, j'ai du mal à me mettre à la culture physique. Alors, l'astrophysique, j'en ai rien à foutre. Quant à Jérémy Crédville, qui joue au Lille Métropole Rugby Club Villeneuve-d'Ascq, il s'est exclamé. Wow. Reeve! Jean-Pierre Reeve, casque d'or, le troisième ligne de légende. Génial! Enfin, un invité que je vais comprendre. J'ai alors précisé à certains de mes collègues de la bande originale, qui, il faut l'avouer, ne sont pas que laids, mais sont également sots à bouffer du foin, oui. J'ai précisé qu'Hubert Reeve, non seulement était un grand scientifique et a fait considérablement avancer la théorie de l'origine des éléments chimiques, dont le lithium, le beryllium et le bore, mais aussi qu'il fait rimer ontologie et écologie. En effet, l'ontologie, science des premiers principes, posant la question de l'être, rejoint l'écologie scientifique qui étudie les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leurs interactions. Waouh ! Là, ce que je viens de dire, c'est du lourd, c'est du lesté, c'est du savant. Autre chose, me disait Nagui tout à l'heure, que les vulgarisations scientifiques de la tête de la Terre au carré sur France Inter, animées par Mathieu Vidard, qui me rappelle, a ajouté Nagui, mon prof poussif et pervers de SVT, lors de ma troisième...
J'aurais aimé l'avoir comme prof, oui, Mathieu.
Lors de ma troisième, sixième, et encore, je suis gentil. Vous pourrez d'ailleurs, cher Nagui, le dire en face de Mathieu dans quelques minutes.
Il est là, oui, déjà.
Bref, Hubert, j'ai kiffé ses entretiens, d'autant plus que j'aurais pu parfaitement écrire une de tes dernières phrases, je la cite, page 111, car quitte à paraître immodeste, c'est exactement ce que je ressentais ce matin en gribouillant cette chronique. Je te cite, « Je me sens vivant quand j'écris un texte qui a toutes les chances d'être apprécié. » Bonne émission.
Oui, ça va, oui, le melon.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Hubert Reeves, je chemine avec, c'est la collection, nouvelle collection au Seuil. Pourquoi avez-vous accepté de vous raconter et d'ailleurs de dévoiler pas mal de choses sur votre intimité et votre famille?
Parce que je connais beaucoup de jeunes gens qui sont devant le problème. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand?
Tous les jeunes gens.
Tous les jeunes gens. Et qui se trouvent aujourd'hui que c'est particulièrement difficile. Parce qu'il y a quelques siècles, votre père était forgeron, vous viviez dans une famille de forgerons, vous aviez un peu une idée de ce que vous, qui vous attend.
Forgeron.
Forgeron, ça se prêtait, c'était très bien. Mais aujourd'hui, 50% des métiers qui existent n'existaient même pas dans peu d'années. Et par exemple, si on dit à un enfant, vous ferez de l'informatique, c'est quoi la vie d'un informaticien? Donc l'idée de la collection, qui a été faite par Sophie L'Huillier, au Seuil, c'est de dire, on va essayer de parler avec des gens qui ont vécu déjà dans un certain milieu, qui ont une idée parce qu'ils ont vécu une bonne partie de leur vie. Et on va essayer de décrire. C'est une collection où il va y avoir différents métiers qui vont être présentés pour permettre à ces jeunes gens d'avoir une idée, au moins, de ce que c'est que d'être ceci ou cela. C'est ça le but de cette collection, et ça m'a paru important, parce que c'est quelque chose qui, beaucoup d'adolescents sont perdus. Oui, mais un beau jour, il faut que tu décides, que tu dises, ben, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Mais les pauvres, ben, c'est très abstrait.
Pardon, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Sous-entendu, il faut travailler, il faut manger, il faut...
Exactement.
Oui, mais alors, donc, si on continue le raisonnement, il faut travailler, il faut manger, c'est-à-dire il faut participer à la société de consommation dans laquelle on est, et pas vivre en autosuffisance en étant dans son coin avec son petit jardin. On rentre dans un système de...
Il faut un travail ou un emploi.
On travaille aussi dans la consommation et donc dans la pollution et ainsi de suite. Enfin,
Oui, ça c'est la situation présente. On espère que ça va s'améliorer, c'est pas sûr, mais vous avez raison de le signaler. Les choix sont difficiles, mais il y a des possibilités. Aujourd'hui, on dit n'ayez pas de boss, n'ayez pas de patron, soyez
votre propre patron.
L'importance des start-up. Moi, j'ai un de mes petits-fils qui s'est dit je ne veux plus être l'esclave de personne. Et il faut inventer, c'est ça l'intérêt de la crise aujourd'hui, c'est que pour la résoudre, il va falloir beaucoup d'inventions, d'innovations, d'esprits nouveaux, disons. Et donc c'est ça.
Daniel Morin,
Moi, ce que j'ai trouvé d'hyper touchant avec ce livre, c'est que Hubert Reeves, quand on en entend parler, on sait que c'est un des esprits les plus brillants de notre époque, mais en fait, on ne sait pas grand-chose sur l'homme Hubert Reeves, et on s'aperçoit que c'est un être qui a beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, et qui raconte de façon très simple, de façon très claire, quel est son parcours, qui n'a pas toujours été facile, et qui nous donne des clés.
On avant des failles aussi sur votre vie de papa, aussi la manière dont vous êtes passé à côté de l'éducation des enfants.
Je trouve ça formidable de rencontrer l'homme, en fait, à travers ce cheminement.
Absolument. C'est au seuil.
Ouais.
Jérémy Crédville est là. Ça va, Jérémy?
Ouais. Bonjour à... Pourquoi je fais ça, moi?
Oui, pourquoi tu penses?
Oui, non, j'ai mal écrit tous. Bonjour à tous. Mais en ce moment, je suis dissipé. Je vous le dis. Pas plus tard qu'hier, je dépose ma fille à la crèche et en partant, elle me dit « Oh non, s'il te plaît, papa, c'est un déchirement à chaque fois, je t'aime, c'est indéniable, ne le vois-tu pas ?» Voilà, 14 mois, tout son père. Bref, je fais comme avec mon sperme, je la dépose et je pars. Et là, stupeur, tous ceux qui me croisaient dans la rue me souriaient. « Bonjour, 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 bonjour !» Mais que se passe-t-il ce matin dans Paris? Pourquoi tous ces gens me sourient? Ils sont pleins de sympathie. Ils ont l'air super gentils. C'est vraiment, vraiment tout l'inverse de Nagui.
Non,
je me suis dit, en fait, ça y est. Ils m'ont reconnu, succès, amour, gloire et beauté. Et en fait, pas du tout. Ils se foutaient tous de ma gueule parce qu'au pied, j'avais encore les surchaussures vertes de la crèche.
Ah.
La crèche. Des cris, de la bave, des couches sales. Imaginez le Sénat avec pirouette, cacahuète en fond sonore. Vous avez la crèche. Moi, je sais pourquoi. Ça s'appelle une crèche, d'ailleurs. C'est en référence à Jésus. Une fois que t'as payé, à l'instar de Jésus, quand il est né, t'es sur la paille. Avant, j'avais mal au bide avant de faire mes chroniques, parce que comme un nazi qui se fait conduire par un chauffeur de taxi noir, j'avais pas confiance. Là, si j'ai mal au bide, c'est tout simplement parce que pour payer la crèche de ma fille, j'ai donné Daniel. J'ai donné mon rein. Je vous l'ai dit, je suis dissipé. Non, je précise.
Excellent.
Ouais, merci. Non, je précise, c'est une micro-crèche. Parce qu'ils ont un slogan que j'ignorais, c'est micro-crèche, maxi-dèche. Ouais. C'est cher. C'est très très cher.
Oui.
Franchement, c'est très très cher. Pour vous dire à quel point c'est cher, même Nagui dirait « Oh, c'est cher
!» Non.
Si, à la micro-crèche, les places sont plus chères qu'un carré or pour Mylène Farmer, alors que ça chante aussi mal. On l'a beaucoup critiqué à l'époque, mais je pense qu'il y a une femme qui a compris avant tout le monde quelle était la solution pour ne pas se faire ruiner par la crèche.
Véronique Courgeot, bravo.
Non.
Si.
T'as pas honte?
Si. Attends, j'ai loupé le truc. C'est là.
Véronique Courgeot, bravo. Grâce à ton grand congélo, aucune mère au monde n'est plus économe que toi. Non mais t'inquiète
Régis. C'était Dario Moreno, le père de Nadine, je vous l'ai dit, dissipé. À Paris, il y a tellement de demandes, ils font des micro-crèches n'importe où. Ça pousse comme des champignons dans le slip d'Albert. Vous avez l'image? C'est cadeau. En plus, t'es accueilli par une dame qui a du vomi sur son t-shirt, et parfois c'est le sien. Là, c'est Leïla. Alors, cette dame a le syndrome de Gilles de la Tourette, mais avec des prénoms d'enfants. Hein. Bonjour monsieur, vous allez bien? Aglaé, non! La petite a bien dormi, Octave descend! C'est maman qui vient la chercher ce soir ou c'est vous? Je parle, Ridis! Vous voyez, voilà, c'est les prénoms des enfants, les prénoms originaux. Hier, j'ai rencontré un parent à la crèche, il m'a dit bonjour, je suis le papa de Véranda. Je trouvais qu'il avait très mauvaise mine, alors j'ai demandé si ça allait, il m'a dit ouais, c'est juste qu'on a été débité de la crèche il y a 5 jours, donc pour économiser, je mange de l'eau. Voilà. Après, on sait où va notre argent, hein. Les petits mangent mieux que nous, ils ont des activités différentes tous les jours, la pièce est grande, on dirait des petits Balkany, néanmoins les. Par contre, quand tu récupères ton gamin le soir, comme le slip d'Albert, il est dégueulasse. Je voulais être sûr de cette image. T'as l'impression d'être un archéologue qui trouve un fossile. Tu dois gratter 15 couches de sédiments avant qu'il retrouve son état naturel. Là, je parle du gosse. Hein. Je le dis d'ailleurs aux parents, en fin de journée, le plus simple, c'est de suivre les conseils d'Alain Bouchon.
Passez vos gamins à la machine. Faites-les bouillir pour voir si leur visage d'origine peut revenir.
D'ailleurs, moi, à ce propos, je me demande si avec toutes les crasses que j'ai lâchées sur vous aujourd'hui, je vais pouvoir revenir la semaine prochaine.
Oui, bon, toujours bienvenue. Jérémy Gadil, merci.
France Inter, Maggie, la bande originale.
La bande originale avec Hubert Reeves, qui est notre invité. Je cherche, lapsus révélateur. Je chemine avec... Ouais, on a envie de chercher aussi avec vous, on a envie que vous soyez, comment dirais-je, content des découvertes que vous ayez pu faire. Est-ce que là, aujourd'hui, si vous deviez vous dire, je fais un bilan maintenant, ce que vous faites un tout petit peu d'ailleurs dans ce livre, sur ce que vous avez trouvé, sur ce que, au-delà d'avoir participé ou signé, en tout cas, aux découvertes, il y a encore une chose, et vous le dites dans le livre, il y a encore une chose à découvrir.
Il y a une chose fondamentale qu'on va peut-être découvrir bientôt, mais peut-être jamais, Sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il d'autres planètes habitées avec des gens qui se posent des questions, des émissions de Nagui, par exemple?
Les pauvres.
Les pauvres.
Aller si loin sur notre planète pour avoir l'émission, ça, c'est pas un cadeau. Ouais,
non, mais dans votre, pas mal au crâne, au moins.
Votre raisonnement est de dire, on sait qu'il y a d'autres systèmes solaires.
Voilà.
Il n'y a pas qu'un soleil avec des planètes satellites autour. Il y a d'autres soleils avec d'autres planètes satellites. Oui. Est-ce que ces planètes satellites sont à une distance suffisamment confortable pour avoir une vie, de l'eau, parce que plus on est proche du soleil ou plus on est loin du soleil, c'est moins la vie est possible dans un sens comme dans l'autre, trop froid, trop chaud.
Exactement. Et ça, ce qu'on sait mais aujourd'hui, et ce qu'on ne savait pas il y a 20 ans, c'est trop nouveau, c'est qu'il y a d'autres systèmes solaires. On le devinait, même les Romains en parlaient, mais bon, c'est différent de supposer.
Là, on a des preuves.
Qu'il y en a des milliers.
Des milliers.
Des milliers.
C'est extraordinaire.
Elles sont loin, effectivement. Un de nos satellites qu'on dirigerait dans cette direction atteindrait les premiers systèmes solaires dans 60 000 ans. Vous voyez, c'est quand même loin.
Mais c'est loin.
C'est aller et retour ou que aller?
Non, juste aller.
Que l'aller. Aller, on peut toujours demander à Michel Drucker d'attendre le résultat, mais retour, c'est long.
Oh, il serait partant.
Et donc, mais la question, c'est est-ce qu'il y a des habitants?
Oui.
Et ça, on est sur le point de le savoir, parce qu'on peut observer ces planètes, ouais, l'équivalent de la Terre. On voit qu'ils ont une atmosphère, et d'année en année, on découvre qu'ils ont des atomes. La question, est-ce qu'ils ont une atmosphère d'oxygène comme nous? S'ils ont une atmosphère d'oxygène, ça donne la possibilité qu'il y ait la vie. C'est pas sûr que ça donnera l'indication, mais ce sera une information qui sera vraisemblable.
L'oxygène et l'eau sont deux choses qui sont directement... Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Bon, s'il y en a l'un des deux, il y a forcément l'autre.
Bon, d'abord, on ne sait pas s'il y a d'autres formes de vie différentes de la nôtre. Au départ, dans cette recherche, on suppose que la vie qui est là-bas est la même que la nôtre, ce qui n'est pas sûr du tout. La nature a beaucoup d'imagination, et il peut y avoir des formes de vie très différentes.
Oui, l'évolution de l'espèce animale homme, entre guillemets, peut s'être faite d'une manière totalement différente.
On ne sait pas.
Oui.
C'est toujours la même chose. On ne peut pas répondre quand on ne sait pas.
Et comment est-ce que vous positionnez le fait d'avoir toutes ces envies de savoir de ce qui peut se passer après, par rapport à la mort, par rapport à votre propre disparition, comment vous envisagez ça?
Bon, ça, c'est un fait.
Oui, non, mais c'est inéluctable, bien sûr. Mais après, comment
on en sait rien.
Comment vous l'appréhendez, c'est ça?
Moi, ça m'angoisse, c'est sûr. Ça, c'est... Mais ce qui est certain, c'est que la vie a une longueur définie. La vie, comme on la connaît, ne dure pas indéfiniment et qu'il y aura certainement la mort. Alors, comment envisager ça? Je dirais, c'est un fait.
Oui.
Il faut s'y habituer, il faut l'adapter. Mais ça reste, je pense, une réalité. C'est, en fait, pour nous, c'est une réalité. Je ne sais pas très bien quoi vous répondre là.
Ouais. Non, parce que j'imagine que quand on doit se dire, voilà, j'aimerais, un jour je vais partir, forcément, ouais, je vais disparaître, mais j'aimerais avoir la réponse à telle question avant, peut-être. J'aimerais...
Mais oui, c'est exactement
ce que vous dites dans le bouquin, ça urge. Moi, ça urge pour moi, c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne tous les jours, je continue. Donc on sent qu'il y a aussi un attachement à avoir d'autres réponses.
C'est-à-dire, je sais que pour moi, un jour, je ne recevrai plus mes revues Nature ou Science où j'apprends des choses intéressantes et qu'il n'y aura plus de réponses possibles pour moi.
Ouais.
Donc, quand je dis ça urge, il y a des choses que j'aimerais bien savoir avant cette date. Bon, mais c'est la réalité.
Quand vous dites Hubert Reeves que ça vous angoisse, ça veut dire que c'est une question à laquelle vous ne voulez pas, vous n'aimez pas répondre, ou c'est quelque chose sur lequel vous mettez un voile pudique et vous vivez chaque jour comme un nouveau jour?
J'essaie, mais c'est surtout que j'aimerais bien savoir à quoi ça rime, cette existence, ce fait d'être arrivé ici, de savoir que nous avons plusieurs décennies. Est-ce que ça a un sens? C'est la grande question. À quoi ça rime? Probablement que je ne l'apprendrai pas plus. Si, non, je pense que ça a un sens, mais c'est une opinion personnelle.
Mais c'est le sens que vous y mettez, peut-être, déjà dans votre itinéraire?
Oui, certainement. Il y a ça. ce que Camus appelait le silence déraisonnable du ciel, qui nous met sur la terre et qui nous apprend pas qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça touche à quelque chose. On est devant cette possibilité d'arriver à la fin, à notre mort, sans savoir la réponse, à quoi ça rime notre vie, que nous soyons là, que nous ayons des bonheurs, des malheurs, enfin tout ce que représente la vie humaine. Mais est-ce que ça a un sens quelque part? Ça, c'est la grande question.
Il y a quand même un petit côté aussi épicurien et jouissance de la vie chez vous.
Oui,
profiter du moment, d'un carpe diem, d'un moment de plaisir sans forcément un moment de, que ce soit un moment de réflexion.
Oui, tout à fait. Je suis très heureux de vivre. J'ai eu de très beaux moments, bien sûr. Mais à quoi ça rime? Est-ce que ça a un sens quelque part? C'est ça ma question.
Est-ce que cette réflexion est encore plus grande quand vous vous asseyez dans ce fauteuil, dans l'émission de Nagui, est-ce que la vie a un sens? C'est là qu'on se pose la question.
Ouais, généralement, c'est quand tu sors du plateau, tu dis, est-ce que tout ça avait un sens ou pas? La musique a un sens, et vous parliez du silence tout à l'heure, justement, la première musique que vous nous avez suggérée, c'était en 1960. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette musique de Simon Garfunkel, pour vous?
Une période que j'aimais beaucoup, quand il y avait cette chanteuse, John Baez, et tout ça.
Ah oui, les protest songs et les chansons à texte de Dylan, de John Baez ou de Simon Garfunkel.
Ouais, c'est ça, c'est une période de ma vie que j'aimais bien.
Et en 60, vous enseignez à la physique à l'Université de Montréal.
Oui.
Et vous arrivez aussi à la NASA en tant que conseiller scientifique. Comment se fait le chemin entre la fac et la NASA?
Bon, ça se fait comme ceci. En 1960, Kennedy décide qu'on va sur la Lune avant telle période. Et donc, il faut que les universités américaines aide ce qu'on appelle des facultés de sciences spatiales, c'est-à-dire ce qu'on sait, c'est qu'on va explorer les planètes, on va rapporter des quantités de données, mais il faut extraire qu'est-ce que ça nous apprend.
Vous expliquez surtout que chacun cherchait dans son coin et personne ne cherchait ensemble.
C'est ça, et c'est Kennedy qui les a forcés, parce que la marine, l'aviation et l'armée travaillaient chacun dans leur sens, et pendant ce temps-là, les Russes passait devant, envoyait les premiers Spoutnik, et Kennedy
décide. C'est dingue qu'il ait vécu cette période, c'est fou.
En 91, vous écoutiez...
Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est une des plus belles musiques que je connaisse. Je me souviens de l'Alhambra, Recuerdo de l'Alhambra. Ça c'est sublime.
Francisco Tarrega.
Vague qui vous pénètre.
Et alors, quel rapport entre cette musique et la nuit des étoiles?
Pas directement, mais ça fait partie des choses que j'aime, disons.
Et quand vous observez les étoiles dans la nuit, le silence ne vous aide pas à voyager, justement, ou à réfléchir? Vous pouvez écouter de la musique en même temps?
Oui, j'adore. Je trouve que c'est très agréable de faire des choses, écouter de la musique. Tout ça, ça se complémente. Pour moi, ça fait... Quand c'est pas là, ça manque.
Est-ce que la nuit des étoiles, c'est pas aussi une première façon de donner conscience aux gens qu'il y a une planète autour de nous, qu'il y a un univers et qu'il faut prendre le temps de l'aimer, de la respecter aussi?
C'est sûr. Ça faisait partie, justement, c'était les débuts de l'inquiétude par rapport à la planète, par rapport à ce qu'on appelle maintenant la sixième extinction, c'est-à-dire le fait que nous sommes des êtres humains massacres, ravagent leur planète, et que si on n'arrête pas ça, ça va être... la vie va être difficile.
Justement, en 2015, vous écoutiez...
En massacreur. Ah non, je croyais que c'était...
En 2015. Stravinsky et le Sacre du Printemps.
Je croyais que c'était Les Dents de la Mer.
Ou Journal de 20h.
Le Sacre du Printemps de Stravinsky. C'était mon combat avec mon père, justement.
Qui lui aimait?
Mon père, il aimait Johann Strauss, ou des choses faciles, et il était furieux contre moi parce que je mettais le Sacre du Printemps à tue-tête. Et il descendait en colère, et il tapait sur le fronton en disant « Tu veux l'arrêter, ta maudite musique ?» Et moi, c'était ma façon de m'opposer. Vous savez, dans la vie, un jour, il faut tuer son père, et on peut pas le laisser être toujours super présent, surtout s'il est très dominateur comme mon père. Donc c'était ma façon de résister à son emprise.
Et en 2015, on vous retrouve en tant que président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité, président aussi de l'Agence spatiale, l'Agence française pour la biodiversité, avec à chaque fois des actions concrètes comme Oasis Nature, oui. Le fait de dire aux gens, voilà, s'il y a un espace vert autour de vous, faut se l'approprier, faut en prendre soin, parce que justement, avec votre action individuelle, eh bien, ça peut faire revenir les coccinelles, ça peut faire revenir toute la biodiversité. C'est, oui. Vous êtes un des premiers à avoir vraiment considéré que la biodiversité était en lien avec notre propre existence, en fait, et notre survie.
Je ne sais pas si je suis un des premiers, mais en tout cas, c'est quelque chose qui maintenant paraît absolument fondamental. Et ces oasis nature, c'est justement, c'est surtout psychologique dans le sens que lorsque vous faites quelque chose, ça vous donne courage si vous n'êtes plus dans ce mouvement dépressif qui consiste à dire « Ah, c'est foutu, oui. Ça c'est la formulation la plus toxique. » Celui qui dit « c'est foutu », déjà il participe à cette dépression, cette tendance dépressive qui fait qu'on baisse les bras et qu'on tire son épingle.
Vous avez dit à ce micro, quand vous aviez présenté votre herbier, vous étiez venu ici et vous nous aviez dit « c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité ».
C'est la planète n'est pas en danger, l'humanité est en danger, mais avec elle une bonne partie de la vie. Aujourd'hui, on voit jusqu'à quel point notre action est nocive. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a des choses positives, et ça, c'est important de le dire. L'an dernier, on a retiré de la liste des animaux en danger les baleines. Au 19e siècle, tous les biologistes pensaient que les baleines, c'était terminé. On en tuait 30 000 par année. On avait les bateaux les plus puissants, les plus efficaces, et tout le monde considérait que c'était foutu. On en a mis une commission baleinière. Aujourd'hui, c'est à ce point qu'après avoir été sur la liste des animaux les plus menacés, aujourd'hui, on les a retirés de cette liste. Ça, c'est important de le considérer. Il faut considérer les éléments positifs qui se passent. Il se passe beaucoup de choses positives aujourd'hui. De sorte qu'il faut garder espoir. Non pas personne connaît l'avenir. Comment sera cette planète dans 50 ans? Personne ne le sait. Les menaces sont là, on les voit, mais ce qui va se passer est imprévisible. Et si on ne garde pas cet espoir qu'on peut faire quelque chose, c'est pire.
Tout dépend de notre comportement. Est-ce que vraiment chacun, à notre niveau, c'est la fameuse légende du colibri, est-ce que chacun à notre niveau, on y peut quelque chose, ou ce ne sont que les grands de ce monde qui peuvent décider?
Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gouvernements ne sont pas très actifs. Mm-hmm. On n'a qu'à voir aux États-Unis et même récemment en France avec les questions de la pêche électrique dont la France veut essayer de se débarrasser de l'interdiction. Mais on voit qu'il y a au niveau des villes, au niveau des un peu partout, une telle progression dans ce qu'on peut appeler un mouvement de restauration. Nous sommes devant une lutte à en terminer entre deux puissances, deux mouvements. La détérioration qui se continue, on le voit très bien, on continue à augmenter le gaz carbonique, on continue à avoir l'érosion de la biodiversité. Mais il y a une autre force qui prend de la valeur, qui prend de la puissance, c'est une force de restauration qui, elle, commence à devenir universelle. Beaucoup de pays s'y associent maintenant. Et c'est une véritable lutte, c'est comme un match de football. Vous savez pas qui va gagner, personne ne connaît l'avenir. Mais il y a une possibilité de la restauration, que la planète soit beaucoup mieux dans 30 ans, mais elle pourrait aussi être bien pire.
Donc il faut ce discours positif, en tout cas, je pense que vous le tiendrez dans la conférence qui est dans le cycle Demain, notre planète. Le thème est changé. Cette conférence, c'est Mathieu Vidard, à ce micro. Bonjour Mathieu, merci de venir nous rejoindre.
Le professeur pervers vous salue, bonjour.
Ça sera jeudi 21 novembre à 20h à la Maison de la Radio, avec Hubert Reeves, entre autres, Aurélien Barraud aussi, Cynthia Fleury, Valérie Cabanne, sur l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, exactement ce dont on parle. Est-ce que justement, Mathieu Vidard, la nouvelle génération, celle de Greta Thunberg, qui est raillée partout, enfin par certains vieux cons,
par certains vieux cons,
c'est ça, qui devait être des jeunes cons d'ailleurs avant.
À la base, ils étaient cons.
C'est pas l'âge. Est-ce que cette nouvelle génération là nous fait bouger les fesses justement?
Ah bah carrément, oui. Ils nous secouent même. Hein. Heureusement qu'ils sont là, parce que depuis un certain temps, on avait besoin de figures comme celle de Greta Thunberg et tous ces milliers milliers de jeunes qui descendent dans la rue, au Canada, justement, chez Uber Eats. Il y avait 500 000 personnes à Montréal, là, il y a un peu plus d'une semaine pour la marche sur le climat. Il y en avait malheureusement un peu moins en France. J'ai trouvé que c'était un peu timide, d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on a vu dans le monde entier. Mais quand même.
Parce qu'il pleuvait.
Oui, c'est ça, sans doute, ouais.
Il y a les grèves le vendredi aussi dans certains collèges et lycées.
On les a croisés, on a fait une terre au carré dans la manif avec tous ces jeunes qui se mobilisent et c'est vraiment génial parce qu'ils ont, vraiment la niaque et c'est eux qui font bouger les choses, qui secouent d'ailleurs les politiques aujourd'hui et ils ont un rôle extrêmement important à jouer pour que justement on prenne la mesure des enjeux parce qu'évidemment tout ce qui se passe aujourd'hui autour du climat, de la biodiversité nécessiterait vraiment des politiques d'envergure, ce qui n'est encore pas le cas et les jeunes sont là justement pour pousser et je pense qu'ils vont y arriver.
Le problème dans tout ça, je vous pose la question à tous les deux, ce sont les enjeux économiques d'un côté, il faut faire rimer écologique et économique parce qu'on a l'impression qu'il y a des lobbies qui sont imbattables et que face aux sociétés pétrolières, face à l'industrie alimentaire, face à toute cette surconsommation, on ne peut pas faire grand chose de notre côté, je ne sais pas, Uber Eats.
Je pense qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire, on ne peut pas faire grand chose. Ça va peut-être marcher. Et ça marchera peut-être pas.
Mais est-ce que chacun à notre niveau, on peut faire quelque chose?
Ça compte. Tout compte. Les mouvements, tout ce qui amène quelque chose. Par exemple, les projets de la ville de Paris, par exemple, des projets magnifiques aujourd'hui pour rendre la ville plus verte. Alors, est-ce que ça va être mis en place? Vraisemblablement. Mais c'est des choses qui donnent de l'espoir. Il faut cultiver l'espoir et se dire l'essentiel, c'est de garder la planète habitable. Habitable et agréable. Et ça n'est pas impossible, mais ça n'est pas garanti.
Ce sera en loi Carrez, quoi.
Dans la terre, pardon, au carré, c'est votre émission et votre mission aussi. Il a fallu attendre un certain temps quand même pour qu'il y ait des missions quotidiennes sur l'écologie.
Oui, mais la prise de conscience, elle est très récente en fait. Hein. Ouais. En France, je pense que ça fait seulement un an, un petit peu plus d'un an. Je pense que vraiment la démission de Nicolas Hulot, la démission de Hulot a été très importante pour beaucoup de Français.
Qui intervenait juste après l'intervention des lobbies pour la chasse. Et on en parlait hier avec Alain Bourguin-Dubourg.
On est
le pays qui autorise le plus d'espèces à être chassées en Europe. C'est juste un truc infernal.
Donc il y a beaucoup de Français qui ont décidé de s'engager vraiment depuis cette décision. Je crois que l'arrivée de Trump aussi a beaucoup saisi sur son aspect climato-sceptique. Et je pense que ça a aussi engendré beaucoup de mobilisation. On a attendu longtemps, mais on y est aujourd'hui en quotidienne.
Alors Mathieu Vidard, justement,
il était déjà question un peu de toute la biodiversité, de l'écologie aussi dans la tête au carré. C'était aussi des thématiques qui n'étaient pas absentes.
Et c'est vrai que les scientifiques sont toujours présents d'ailleurs dans l'émission aujourd'hui, mais je crois qu'on a...
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les grands combats que vous décelez?
Mais il y a deux grands combats, c'est le climat, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Déjà, avec ces deux combats-là, je pense qu'on en a pour des années et des années. Et puis, vous posiez la question, Nagui, tout à l'heure, de savoir si on a des choses à faire, nous, déjà, à notre niveau. Mais
Chacun bien sûr.
Moi, j'ai fait l'autre jour une émission, je connaissais vraiment pas ce domaine-là, sur les banques. Et le fait de placer son argent dans des banques qui investissent plutôt, justement, dans le social ou dans l'environnement, plutôt que dans les énergies fossiles. Ça, c'est un levier qu'on a tous aujourd'hui et il faut absolument faire en sorte que justement notre épargne, par exemple, ou le peu d'argent qu'on a, serve utilement la cause commune. Donc on peut avoir des actions comme ça concrètes.
On peut parler d'un sujet qui fâche, le nucléaire, par exemple. On est un pays qui pollue le moins pour avoir son énergie électrique grâce au nucléaire, parce que justement ça pollue moins que le charbon qui est utilisé notamment en Allemagne. Et pourtant, ce nucléaire-là, vous étiez pour fut un temps. Est-ce que vous êtes toujours pour ou est-ce que...
Non, maintenant je suis contre. Parce que ça s'appelle Tchernobyl et Fukushima. C'est qu'on sait maintenant que ça, c'est des réalités. Et ça,
comment produire de l'électricité proprement?
Le nucléaire, il faut s'en débarrasser, je dirais, le plus vite possible.
Avec quoi? Des éoliennes?
Mais pas.
La géothermie, avec quoi?
Si on éliminait aujourd'hui, ce serait certainement la pagaille. Donc il faut mesurer la façon de s'en débarrasser à la possibilité d'augmenter la récupération de l'énergie solaire. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'avoir de l'énergie solaire en quantité suffisante pour avoir des douches chaudes le matin. Mais c'est quelque chose qui a augmenté à une vitesse fantastique depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on disait le nucléaire, c'est peanuts, ce sera jamais rien. Aujourd'hui, ça a augmenté bien au-delà de toutes les prédictions. Et il y a déjà plusieurs pays, dont le Danemark, les pays scandinaves, qui parlent de 10, 20, 30 %. Vous voyez, 20 %, c'est pas négligeable. Donc, on peut pas le faire tout de suite, mais je crois qu'il faut le faire le plus vite possible et surtout investir dans ce domaine pour avoir la contribution personnelle. Et la contribution personnelle, ça demande des subventions. Ce que le gouvernement avait fait, a commencé il y a quelques temps, qu'il a abandonné. Mais je crois que ça, c'était une erreur.
Mathieu Vidard, quel est le sujet aujourd'hui de votre émission ?
La pollution lumineuse, justement. Le fait qu'on ne puisse plus voir les étoiles dans le ciel. Et ça pose des problèmes pour beaucoup d'espèces vivantes, pour l'homme aussi d'ailleurs, hein, puisque cette alternance du jour et de la nuit est absolument essentielle pour la vie. Ouais. Et aujourd'hui, 80% des habitants de la planète, un tiers, un petit peu moins, donc ne voient plus la voûte céleste.
13h30, 14h30.
C'est une super émission.
Sublime.
Super
sublime.
Émission. On est fan. Le répéter. On adore Mathieu Vidard.
Heureusement qu'il y a la pollution, comme ça vous existez.
Ouais, c'est ça. Et même si on travaille sur une autre radio, on dirait qu'elle est bonne, votre émission. 13h30, 14h30, La Terre au Carré. Mathieu Vidard, merci Mathieu. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler de Céline Dion.
Oui, je la hais. J'ai horreur des voix puissantes. Il faut savoir que Céline Dion arrive avec Estrelle et Caribou sans les toucher, avec juste sa voix. Et hier, j'ai réalisé que j'étais le seul à être dans ce cas, parce que pour son concert au Vieille Charrue, elle a écoulé 55 000 billets en 9 minutes. Ouais. Beyoncé à côté, niveau billetterie, c'est Julie Pietri.
Avec Léla Kadomoudadi, Daniel Morin,
Jean-Marc
Valgou, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau et l'excellent Hubert Reeves. Bravo. Qui était pour le nucléaire avant, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui? Ça veut donc dire, et c'est aussi une preuve d'intelligence, de dire on peut se tromper, on peut changer. Il faut quoi pour s'en rendre compte? Il faut des catastrophes climatiques, il faut voir la planète avoir mal, souffrir. Et
exactement. Il faut se rendre. Au départ, moi, j'étais en faveur du nucléaire parce que c'était, on disait, c'était l'énergie gratuite, c'était la fin de la pauvreté dans le monde. Oui. Il y avait un tout petit problème, c'était les déchets nucléaires. Mmh. Mais avec l'optimisme habituel des êtres humains, oh, ça, on va le régler, ne vous en faites pas. Eh bien, on ne l'a pas encore réglé. Et de plus, se sont ajoutés deux éléments qui, là, sont très coercitif, ça s'appelle Tchernobyl et ça s'appelle Fukushima. Et pour cette raison, moi je pense que le nucléaire, c'est trop dangereux pour les êtres humains. Mmh. Les êtres humains, ils sont naturellement très, très positifs, mais aussi assez brouillons. Après un certain temps, quand arrive le vendredi soir, on dit, moi j'irai bien à la pêche, donc on va fermer les sécurités, on va faire des choses comme ça.
La pêche, vous, oui.
Et parce que la plupart des accidents qui ont eu lieu, c'était pas des accidents machines, c'est des erreurs humaines. Ouais. C'était des gestes positifs, ouais. Enfin, pas positifs du tout, mais c'était ça. Donc il faut se rendre compte, pour moi, c'est trop dangereux pour les êtres humains.
Après, d'après l'URSS, il n'y a eu que 14 morts.
Tu parles. Et le nuage... Les nuages à éviter les frontières, ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Vous m'avez parlé d'un facteur au Canada qui s'appelle le PFH, Le PFH, c'est un facteur qui détermine, qui explique pourquoi les choses peuvent mal aller ou qu'est-ce qu'il faut pour qu'on réagisse.
Oui.
C'est quoi le PFH ?
Le PFH, c'est le putain de facteur humain.
Excellent.
Et ça, c'est toujours là.
C'est toujours
là. On a beau faire, et le nucléaire, il est en grand danger par rapport au putain de facteur humain.
Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous allez aborder le sujet de l'intégration.
Oui, parce que l'intégration, on en parle uniquement quand il s'agit des étrangers, et ça marche. Hein. Regardez Rock Voisine, immigré québécois. Il a fait son intéressant 3 ans avec sa gratte, on a failli le foutre dans un charter, mais depuis, il s'est intégré, on n'entend plus parler de lui. Il tient une sandwicherie Subway à Dax. Regardez Hubert Reeves, Beber comme je l'appelle, parce que le fait d'être tous deux des gens à forte capacité intellectuelle crée une familiarité. Bon, bah Beber aussi est québécois, l'un des seuls à avoir fait carrière en France sans chanter, à cause de cette barbe qui étouffe son organe. Il faut savoir que Razé, c'est le sosie vocal de Florent Pagny. Et Beber est intégré. Alors que moi, qui suis français depuis 90 générations, mon ancêtre gaulois, Pasturix, bouffait déjà du saucisson. Quand je vais sur le site François de Souche, une bannière s'affiche avec écrit « Bienvenue à notre héros ». J'ai le sang tellement peu mélangé que les moustiques l'été disent « Non, celui-là, on le pique pas tout de suite, on le garde pour une grande occasion, le permis de conduire du petit ». Et ben moi, je ne me sens pas intégré. Pour vous dire, j'ai envie de quitter la France, pour redémarrer à zéro dans un pays où je ne suis pas connu. Donc, ok, je peux aussi bien rester en France. Non mais avant, moi qui suis névrosé, dans ma tête, il y a moins de couleurs qu'à la télé polonaise. Ben, je me retrouvais dans la variété française, les clips de Jean-Louis Murat dans la neige qui se faisait un manteau avec la peau de son chien mort de faim. Ça, c'était la France, une nation déprimée où les gens foutent du Xanax dans leur picon. Mais hier, j'ai compris que ma France, celle du romantisme, de la noirceur, celle qui criait des t-shirts Waikiki vert fluo, ne passeront pas par moi, n'est plus. Hier à 13h06, la nouvelle est tombée sur les téléscripteurs, comme dirait Alain Duhamel. Le pigeon voyageur a apporté une note, comme dirait Jean-Pierre Elkabbach. Hier à 13h06, j'appris par la presse que Céline Dion, encore une Québécoise, ces gens sont partout, ils tiennent les médias et la finance. J'appris que Madame Dion écoula en 9 minutes tous ses billets pour le festival 2020 des Vieilles Charrues. Ce festival que j'ai tant fait étant jeune. J'ai vu Noir Désir, Placebo, que des gens qui puent la détresse. Ce festival qui consistait à vomir sur des personnes en train de suriner dessus. Une fière ambiance de celte défoncée a programmé Céline Dion, la hyène hurlante d'outre-Atlantique. Pire, le public des charrues naguère branché rock, la plébiscite 55 000 billets écoulés en 9 minutes. J'ai calculé pour en vendre autant moi, il me faudrait 40 vies de Valérie Giscard d'Estaing. Mais Céline Dion va chanter à Carhaix, paisible bourgade de Centre-Bretagne où le cri le plus puissant entendu fut celui en 2003 d'un sanglier dans les bois, suivi d'un deuxième cri de monsieur Loïc Le Guen qui hurla « Chérie, finis les jeux coquins en forêt, je pensais que c'était toi, je viens juste de sortir avec un sanglier. » Ça sera le seul passage en festival français de Céline Dion. Donc je le dis, il est encore temps d'accorder son indépendance à la Bretagne et d'édifier un grand mur afin d'empêcher les migrants carésiens de rejoindre le Mont-Saint-Michel. Et attention, Madame Dion n'a pas refilé aux gens des places dégriffées sur Billets Réduc, non. 59€ le ticket, 59€ pour être debout dans l'herbe. La moindre ZAD peuplée d'altermondialistes qui ont des puces, c'est gratuit de vivre la même chose. Et vous avez un concert de reprise des Berruriers Noirs à la flûte à bec par un paysan habillé en cuir de châtaigne.
Bon. Tanguy, pas sûr, soyez beau joueur, Céline Dion est une immense star.
Ah mais ça, je ne le nie pas, Nagui. Ah bon. Je suis lucide quant à notre époque. Je dis juste que moi, je ne peux pas vivre ça, parce que moi, j'aime les voix douces, posées, de l'herbe père et fils, Benjamin Biolay, la superbe. J'écoute ça, c'est comme si je vivais dans un film. Mais Céline Dion, c'est comme si je vivais dans un film, Shining, hein, et que je disais au type pas bien, vas-y bébé avec ta hache, prends-moi pour un érable, je refuse de faire partie du même monde que ceux qui aiment Céline Dion. Enfin, quand elle chante, j'ai l'impression qu'elle m'engueule. La dernière fois que je l'ai vue chez Drucker, je me suis planqué dans mon vaisselier. C'est mon petit neveu qui m'a retrouvé 3 semaines plus tard. Il m'a attrapé en même temps qu'une assiette à dessert et a dit « Chef Raoni, c'est vous ?» J'ai voulu me faire rêver un peu. Alors j'ai répondu « Non, c'est Sting, Raoni est parti cueillir des baies. » Bon, et là c'était un peu gros, il a compris, hein. Il a dit « Faux, je connais la voix de Sting, à mon avis tu es Bruce Springsteen. » Bref, on est tous un peu cons dans la famille. Hein. Nagui, la tournée de Céline Dion, vous savez comment elle s'appelle ? Elle s'appelle « Courage ». Ce n'est pas un hasard. Hein. Ils n'allaient pas l'appeler promis juré, ça fait pas mal. J'ai pris 4 tickets pour Courage, ça donne envie. Le cachet de Céline Dion aux charrues est le plus important de l'histoire du festival. Il reste 110€ à partager entre les autres artistes. Du coup, ils ont calé Faudel, Tonton David et Ophélie Winter. Hein, pour venir, ils lui payent le plein de sa Smart, qui est aussi sa maison. Hein, la malheureuse a la même vie qu'un escargot. Un jour, elle va tomber sur Jean-Luc Petit-Renaud, il va chercher à la faire dégorger. Mais attention, attention, Céline Dion passe aussi à Paris à partir du 26 juin. J'ai regardé, 26 juin, c'est la date de fin de saison à France Inter. Donc le 26 à 12h30, je pars de la radio, j'appelle un drone, le truc me dépose à Roissy. Là, je hurle au guichet un billet pour le premier vol. Et même si on me répond « Vous êtes sûr ?» c'est Bagdad sur une compagnie low cost qui a vécu 3 crashs en 5 ans. Je dirais « Je prends !» Je dirais « Vous n'êtes pas au courant ? À Paris, il y a Céline Dion !» Et là, bien sûr, les yeux écarquillés par l'amour des voix puissantes, la dame du guichet me dira « Céline Dion, j'adore !» Je lui répondrai « C'est normal, c'est moi le problème. Adieu ma France. »
Sur France Inter. Et on retrouve Tanguy le 16 novembre dans le Haut-Rhin à Sossheim.
Question maintenant pour savoir, et vous pouvez tous essayer de trouver la réponse, ou à moins que vous la connaissiez, Hubert Reeves aussi, dites-moi, quel est le nouveau combat d'Hugo Frey ?
Dis-moi,
Céline, Hugo Frey, un nouveau combat. Oui.
La réhabilitation de la coupe Mulet ?
Non.
C'est l'écologie ?
Alors,
les oiseaux, les animaux ?
En tout cas, c'est un combat politique.
Ah oui, pardon, il est sur la liste de Cédric Villani.
Exactement. Voilà. Il soutient Cédric Villani pour la mairie de Paris. Hubert Reeves, vous avez eu, j'imagine, déjà des propositions pour soutenir ou aider des hommes politiques, des femmes politiques?
J'ai un jour été nommé sur la liste du député du Front National.
Ouais.
Et je l'ai renvoyé un mot en disant « Est-ce que vous savez que vous invitez un immigrant, un travailleur immigrant ?» J'ai pas eu de réponse.
Mais vous n'étiez pas sur une liste électorale, vous étiez.
Non, mais
vous avez reçu une invitation.
Le shadow committee, c'est-à-dire qu'ils énoncent, ils se font un groupe de gens que s'ils sont élus.
Les gens de l'ombre.
Oui.
Ouais, c'est ça.
C'est la seule chose. Non, j'ai eu souvent des propositions de la gauche, de la droite.
Est-ce que justement, comment vous avez réagi le jour où vous avez appris que Nicolas Hulot démissionnait?
J'ai pensé qu'il avait raison, parce que j'ai pensé que, d'une part, s'il était resté au gouvernement dans cette position, c'était un aveu de faiblesse et un aveu de non-réalisme, détruire sa réputation qui est importante, et qu'en même temps, ça avait un effet positif, parce que ça montrait que même lui, avec toute son influence, sa popularité, n'était pas en mesure par des voies gouvernementales, de changer quelque chose.
Mais alors, donc vous dites que même lui n'arrive pas à changer des choses alors qu'il avait l'un des postes les plus importants dans le ministère. Donc qui peut changer quelque chose?
Pour l'instant, ça va venir. Aujourd'hui, non.
Non, mais le PFH, à un moment donné, quand est-ce qu'il va être dans le bon sens?
On espère qu'il sera. Tout ça, c'est de l'espoir. L'avenir est inconnu, encore une fois. On ne peut pas dire que nous allons forcément vers des catastrophes. Ça pourrait aller beaucoup mieux. Il faut tout faire pour que ça aille beaucoup mieux.
Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Donnez-nous deux, trois exemples. On vous aime tous, autant que nous sommes dans ce studio.
Moi, j'ai mis des réserves.
Sans être donneur de leçons. Parce que le problème, c'est que dès que l'on dit quelque chose, nous, à ce micro, on est taxé d'être nanti, bobo, c'est facile.
Même bonjour.
Non, mais enfin, dès qu'on dit de manger moins de viande ou de rouler avec une voiture électrique, qu'est-ce que l'on entend? On entend que c'est pas forcément la solution de manger moins de viande, que les voitures électriques sont faites avec des batteries au lithium, que elles aussi, elles abîment la planète ou elles consomment de l'électricité.
Et qu'on vit pas tous dans des endroits où
on n'a pas les moyens
Voilà. C'est vrai qu'on peut entendre que les gens ne nous écoutent pas.
Donc, que faire, Hubert Yves?
Qu'il y ait des problèmes graves, c'est évident. Mais que ces problèmes amènent à une catastrophe, l'avenir est inconnu. Et je dis, la question, c'est pas de savoir si on a raison, c'est de dire, si on fait autrement, ça, c'est sûr que ça va mal aller. Mmh. Et l'important, c'est de garder la terre
habitable. Si on fait pas autrement, c'est sûr que ça va mal aller.
Pardon?
Si on ne fait pas autrement, si on ne change pas notre manière de vivre, ça va mal aller.
Oui, c'est sûr. Non, mais si on admet que c'est foutu, c'est foutu.
C'est foutu.
D'accord.
Donc, cette solution-là, il faut l'exclure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution.
En faisant quoi?
Ben, c'est à trouver, et d'ailleurs ça se trouve aujourd'hui. Vous le voyez par cette importante puissance aujourd'hui des forces de restauration, avec tous les gens qui se réveillent. On est dans une période de réveil très important. Moi, je fais souvent des conférences dans des lycées, des choses comme ça, mais je suis étonné de voir jusqu'à quel point les jeunes sont dynamiques, à quel point un peu partout, vous entendez parler à tout instant de nouvelles initiatives qui se font. On ne sait pas très bien.
Interdire le plastique, interdire les pesticides, consommer moins de viande, avoir moins de voitures qui roulent au diesel ou à l'essence,
des éléments qui seront peut-être positifs. Mm-hmm. Il faut simplement, c'est une question d'attitude. Il faut se considérer comme dans une guerre. Nous sommes en guerre et notre but, c'est de garder la planète habitable. Et si nous perdons le dynamisme qu'il faut, pour cela, c'est foutu. Nous sommes dans quelque chose qui ressemble au Moyen-Âge, ça s'appelait des veillées d'armes.
Oui.
Nous sommes dans cette attitude de dire, nous pouvons compter sur le fait que l'avenir n'est pas déterminé. Et l'avenir est toujours inconnu.
On va faire une grande émission la semaine prochaine.
Ouais, le 15 octobre, l'émission pour la Terre.
Avec Anne-Elisabeth Lemoine et justement Nicolas Hulot sera présent, où on va proposer des gestes. Ouais. Et on va voir, c'est presque une valeur de sondage. Hein. On va proposer des gestes en disant, vous seriez prêt à faire quel geste, vous, si on va vous expliquer par exemple que un steak, ça représente à peu près la taille d'une baignoire en termes de consommation d'eau, et expliquer quelle est l'incidence entre l'industrie agroalimentaire et la pollution. Êtes-vous prêt à diminuer votre consommation de viande un jour sans viande. Est-ce que ça peut changer quelque chose ou pas? Êtes-vous prêt à accepter, en tout cas, de le faire? Et on verra bien à la fin de cette émission, d'ailleurs, quels sont parmi les 10 gestes proposés les 2-3 plus importants que l'on pourrait peut-être mettre en avant.
Vous savez, cette lutte pour sauver la nature, c'est pas nouveau. Ça commence il y a plus d'un siècle, c'est en Californie, c'est quand on fait les premiers parcs animaliers et on obtient des gouvernements les premières lois. L'important, c'est d'avoir de la législation. Maintenant, ça se fait un peu partout, il y a des quantités de choses maintenant qui sont interdites justement pour sauver tout ça. Mais il faut savoir qu'on est dans un mouvement qui existe depuis plus d'un siècle et demi. Et ça, c'est important pour... Beaucoup de gens pensent que c'est tout à fait nouveau, que non. Il y a déjà une lutte importante qui a lieu. Il y a Rachel Carson, par exemple. Rachel Carson, c'est 1960.
Silent Spring.
Silent Spring. C'est la première femme qui dit... Silent Spring, ça veut dire ceci. À cette période, aux États-Unis et ailleurs, on versait du DDT partout. Et cette femme écrit un livre qui s'appelle The Silent Spring, le printemps silencieux, pour dire si on continue à mettre du DDT partout... Le printemps prochain sera silencieux parce que le DDT, ça tue aussi les oiseaux. Mm-hmm. Elle va voir Kennedy et elle obtient la première législation contre les pesticides. Vous voyez, il y a des étapes comme ça qui ont lieu tout au long de cette période. Nous sommes dans une lutte de longue haleine. Cette lutte obtient des choses importantes, comme le fait qu'on ait tiré les baleines de la liste des animaux en danger. Le fait qu'on retrouve des castors aujourd'hui alors qu'il n'y en avait plus, il y a des quantités d'éléments positifs. Il faut les mettre en évidence pour redonner un dynamisme que les gens pas dans cette c'est idée vrai. Que c'est foutu.
Il faut voir le nombre de rats qui sont revenus à Paris d'ailleurs.
Et aucun pesticide n'a eu raison de Daniel Morin.
Non, aucun. Pour l'instant.
Ses cheveux, si.
Oui, malheureusement. Mais quel timing parfait de chez Parfait. Nom de Dieu, ils sont forts à la programmation de cette émission. On a vraiment les meilleurs stagiaires du monde. Un jour, faudra les payer. Enfin bref. Alors, pourquoi je m'emballe comme ça? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, nous recevons Hubert Reeves, et ce, en pleine saison des Nobel. Avant-hier, le Nobel de physique. Et quand on lit le pourquoi de la récompense, on se dit dans un premier temps, waouh. Et puis quand on se penche un peu sur le sujet, on se demande quand même si on se foutrait pas un petit peu de notre gueule pour certains prix. Hein. Le prix Nobel de physique a été remis à Michel Mayor et Didier Queloz, sûrement deux copains à vous, oui. Mon cher Hubert, et ce pour la découverte de la première exoplanète. Et quand on leur demande « Mais comment on les voit ces planètes ?» Michel, il a peur de rien. Il répond « On les voit pas vraiment, mais j'ai développé une technique qui permet de pas voir la planète, mais de déceler sa présence. » Il est fort, hein, Michel. Hein. Mais regardez, là, on voit rien, mais je sens une présence. Par là, dans le coin, là. Oh, ça sent la fake news. Personne n'est allé vérifier si Michel et Didier ne racontaient pas un bon gros pipeau. Quand tu sais que dans le métier Michel Mayor, on le surnomme Astromitch, tu sens grimper le doute, hein. Bref. Alors, ils ont de l'imagination, c'est clair. Didier, quand il parle de la fameuse exoplanète découverte en 95, il a un aplomb, le gars. Il dit, oui, alors c'est une planète géante, de la taille de Jupiter, il fait environ 1200 degrés. Mais d'où tu sais, Didier, qu'il fait 1200 degrés sur Jupiter? D'où tu le sais? Comment tu peux le prouver? T'as déjà passé un week-end sur Jupiter pour savoir? Invérifiable leur truc, ça pue la fake news. Le gars, il te dit que dans notre galaxie, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles. Niveau pareil planète. Hein? Mais alors, il les a comptés pour être aussi affirmatif. Un soir, il s'est assis en bas du télescope avec son thermos de café, il a pris son boulier et c'était parti.
Une planète. Deux planètes. Trois planètes. Quatre. Cinq. Six.
Ah, une autre. 100 milliards. 100 milliards de planètes. C'est bon, Michel, j'ai fini, il y a 100 milliards. Voilà, quand même. Bon, je redescends. Ça fait combien de temps que je compte? 3 ans, 200 jours, 9 heures et 13 minutes. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Imagine, c'est un truc qui vient perturber le comptage. 188 milliards, 223 millions, 500 d'eau. Hé, hey, t'as pas vu la Didier commande, Didier? Oui, j'en étais à combien de... Oh, merde, je sais. Tu fais chier, Michel! Pardon! Je recommence. Une planète, deux planètes, trois planètes.
Bref, pour résumer, avec tout le respect que je vous dois, hein, monsieur Hubert Reeves, je dis, méfiez-vous des scientifiques, méfiez-vous des Nobel, méfiez-vous d'Hubert Reeves, les fake news sont partout, les amis.
Merci,
la bande originale avec Nadine.
Vous avez un commentaire à faire sur ce prix Nobel de physique? Hubert Reeves.
Moi, je crois que c'est un excellent travail, parfaitement crédible aujourd'hui, et qui est reconnu par toute la communauté scientifique comme valable.
Très bien. Si, Leïla, tu avais un mot à dire à Hubert Reeves.
Oh, bah, de l'amour, en fait, Hubert Reeves.
Ouais. Ah, Daniel Morin. Ouais. Merci.
Moi, j'avais beaucoup de respect, évidemment, pour le scientifique, et maintenant, j'ai beaucoup de tendresse pour l'homme.
Albert Algout.
C'est un certain optimisme, notamment, vous citez Edgar Morin, qui dit que la réalité a plus d'imagination que nous, et ça laisse de l'espoir.
Balèze les morins.
Le PFH, le PFH. Putain, un Québécois qui dit putain.
Ouais, joli, le PFH, ouais. Tanguy Passureau.
Bon, on a vu pas mal de gestes pour sauver la planète. Je voulais dire qu'hier, j'ai mangé une pomme bio. Donc voilà, j'ai fait ma part.
Non, non. Continue surtout. Je vais me permettre d'utiliser trois mots, Hubert Reeves, pour dire ce que je pense de vous après avoir lu Je chemine avec Hubert Reeves aux éditions du Seuil. C'est je vous aime.
Oh. Merci,
sincèrement, du fond du cœur.
Plaisir.
Sincèrement. Grand plaisir. Merci mille fois d'être venu et merci d'exister et de nous transmettre justement tout ça, toutes ces valeurs-là, y compris celle de commettre des erreurs, y compris celle de changer, y compris celle d'évoluer, et puis surtout de positiver, d'être optimiste et de faire du bien aux générations qui viennent et d'apprendre tous les jours, d'apprendre encore, encore ça. Et encore. Demain, Alice Dufour et Guillaume de Tonquédec seront nos invités dans cette bande originale. Portez-vous bien et revenez vite dans cette émission, Hubert Reeves.
Merci,
merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.